Bonjour à tous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Noé, bonjour à tous, bienvenue à vous. Alors vous la connaissez depuis le salon de l'agriculture. Nous allons rendre visite à la vache Égérie, la vache Imminence qui est rentrée à la maison dans les Hauts-de-France. On va s'intéresser à l'artiste Victor Vasarely qui a créé l'art optique. Une exposition lui est consacrée à Paris et sa fondation a réouvert à Aix-en-Provence. Et puis si vous tricotez, elle vous fera rêver. Nous rencontrerons une championne de vitesse de tricot. Elle va remettre son titre en jeu au salon Aiguille en fête. Une heure en France, ce sont vos initiatives, vos coups de folie et notre patrimoine, mais aussi l'actu. Et c'est maintenant. Bonjour Noé Da Silva à nouveau.
Bonjour Frédéric. À la une, c'est donc le mouvement de blocage des prisons aujourd'hui. Il fait suite à cette attaque au couteau contre deux surveillants hier à Condé-sur-Sarthe. Jérôme Jadot en sait plus d'ailleurs sur le déroulé de l'assaut. Il nous dit tout dans quelques instants. Reste également la question de la présence à l'intérieur de la prison d'un couteau. Là, nous poserons la question à Étienne Marcel, avocat et ancien membre de l'Observatoire international des prisons.
C'est en ce moment que les proches d'Adam se retrouvent.
Adam, c'est l'un des deux adolescents morts à scooter samedi dernier à Grenoble. C'est donc le jour des obsèques. Nous serons sur place.
Un masque sur le visage.
Et une casquette sur la tête. C'est bien ainsi que Carlos Ghosn est apparu ce matin à sa sortie de prison. Que va-t-il faire maintenant ? Nathanaël Charbonnier nous dit tout.
Et des cigarettes ou des billets de train ? Ou les deux ?
Les buralistes vont peut-être vendre des billets de la SNCF. C'est en discussion en ce moment même. Un buraliste de Rouen, lui, ne dit pas non.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France. Frédéric Le Ternier, Noé Da Silva sur France Bleu.
Les surveillants de prison sont en colère aujourd'hui.
Oui, sur 18 prisons bloquées ce matin, il n'en reste que deux à l'heure actuelle, dont celle de Condé-sur-Sarthe. C'est de là que tout est parti après l'agression au couteau de deux surveillants par un détenu radicalisé et sa compagne hier. La femme a d'ailleurs été tuée après l'assaut du raid en fin d'après-midi. Et Jérôme Jadot, vous avez des précisions sur ce qui s'est passé dans l'enceinte de cette unité de vie de la prison de Condé-sur-Sarthe.
C'est vers 18h40 que les premières détonations retentissent, des grenades assourdissantes pendant plusieurs minutes, puis au bout de trois quarts d'heure, des coups plus secs, des tirs. Jean-Baptiste Dulion est le patron du raid.
L'opération longue et complexe, du fait des lieux, du profil des terroristes et bien sûr aussi la suspicion de présence d'explosifs. Donc ça a été long et donc on a pu neutraliser les deux individus au terme de cette longue après-midi de négociation. Les explosifs étaient factices.
Le détenu radicalisé a été blessé sans gravité au cours de l'assaut. Sa compagne qui lui rendait visite a succombé à ses blessures. Selon Emmanuel Guimarès, délégué national F au pénitentiaire, elle a activement participé à l'attaque.
C'est elle la première qui a donné le premier coup de couteau avec une lame céramique sur le premier collègue. C'était un geste très très violent, tellement violent que la lame s'est cassée dans son dos.
Comment ce type de couteau qui ne fait pas sonner les portiques de sécurité a-t-il pu être introduit dans la prison ? Pourquoi ce détenu, déjà condamné pour apologie de terrorisme, n'était pas affecté au quartier dédié aux radicalisés ? En visite dans l'établissement après l'intervention du raid hier soir, la ministre de la Justice a promis la mise en place dès aujourd'hui d'une mission d'inspection.
Bonjour Étienne Noël et merci d'être sur France Bleu.
Bonjour.
Vous êtes avocat, ancien membre de l'Observatoire international des prisons et vous avez des clients détenus dans cette prison de Condé-sur-Sarthe. Ça vous étonne qu'un couteau ait été utilisé pour blesser deux surveillants ?
On trouve sans arrêt des armes factices. Des armes qui sont élaborées à partir de tout ce que les personnes détenues trouvent sous la main. Ils peuvent aiguiser même des couteaux en plastique qui parfois deviennent extrêmement coupants et servent d'armes. Donc sur le principe qu'une arme ait pu être utilisée en prison, je ne veux pas dire que ça me surprend pas véritablement. Alors ce couteau-là, moi, si vous voulez, je n'ai aucune information particulière parce que je ne sais que ce que la presse dit. S'il était présent déjà dans la prison ou s'il a été amené par l'épouse de la personne détenue. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les couteaux en céramique, ils ne sonnent pas, effectivement.
Donc à vous entendre, Étienne Noël, il est possible que le couteau soit déjà à l'intérieur de la prison, dans cette unité de vie ?
Il est possible, je n'en sais rien. Moi, je n'ai aucune information particulière sur cette affaire.
Mais il y a des couteaux dans les unités de vie ?
Dans les unités de vie familiale, si vous voulez, c'est des unités qui sont élaborées dans pas mal d'établissements pénitentiaires, surtout pour les longues peines, qui permettent à ces derniers de recevoir leur famille, que ce soit leur épouse ou leurs parents ou leurs enfants, etc. Bon, pendant des durées qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 jours. Bien évidemment, ne vont aux UVF que des personnes qui sont triées sur le volet, qui ont un comportement en détention particulièrement positif, Et voilà, donc n'importe qui n'a pas droit à des UVF. C'est ça quand même qu'il faut savoir. Il y a des commissions UVF au cours desquelles on examine les dossiers des personnes détenues qui sont candidats. Et puis on vérifie dans quelles conditions on peut leur accorder ça. Donc c'est vraiment une marque de confiance.
Les unités de vie donc. Mais la grosse faille dans les prisons, selon les gardiens qui se sont mobilisés encore ce matin, ce sont les fouilles. Comment ça se passe les fouilles ? Est-ce que quand on va visiter quelqu'un en prison, on est fouillé ?
Les familles, quand elles viennent au parloir, elles passent sous le portique. Il y a des portiques de détection de métaux. Donc si ça sonne, bien évidemment, il faut qu'ils enlèvent tout ce qui sonne jusqu'à ce que ça sonne plus. Bon, les personnes qui ont des prothèses à l'intérieur de leur corps, elles doivent avoir un certificat médical pour justifier du fait que ça sonne. Bon, alors et puis si la personne sonne toujours, eh bien effectivement le visiteur fait l'objet d'une palpation de sécurité. Alors pas d'une fouille intégrale comme les personnes détenues, mais d'une palpation de sécurité pour vérifier quel est l'objet qui sonne.
La prison actuelle à Condé-sur-Sarthe, c'est une des deux prisons les plus sécurisées, les plus modernes de France. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Comment cela a pu arriver ?
C'est-à-dire qu'il faut quand même pas, si vous voulez, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est que la Condé-sur-Sarthe hier est le dernier incident gravissime qui s'est déroulé dans une prison en France, au faveur de ma part, c'est à Vendin-Vieille en janvier 2018.
Le 11 janvier.
C'est ça, bon. Ce sont deux établissements jumeaux. Condé est le premier, Vendin a été construit exactement sur le même modèle, et donc les personnes qui s'y trouvent détenues sont théoriquement, enfin en général, des personnes qui présentent un profil particulier parce qu'elles ont été construites exprès pour accueillir des personnes avec une problématique de dangerosité ou des problèmes de comportement. Et donc, c'est tout à fait symptomatique de voir que c'est dans ces deux établissements jumeaux que les faits se sont produits à un an et quelques d'intervalle. Parce que, effectivement, les personnes qui y sont détenues présentent des problèmes, on les met exprès à cause de leur dangerosité. Après, moi, pour avoir parlé avec des personnes, avec des surveillants dans ces deux établissements, il y a un problème de personnel qui est extrêmement important, à savoir qu'il y a un déficit en termes de surveillants. Et je crois savoir que pendant longtemps, les surveillants étaient extrêmement réticents à être affectés à Condé-sur-Sarthe. Et je pense qu'il en est de même pour Vendin-Vieille. Donc il y a quand même un problème qui est lié à la déshumanisation extrême de ces deux établissements, qui sont des établissements hautement sécuritaires, et également au manque de personnel.
On retiendra donc le mot déshumanisation de ces deux établissements. En tout cas, merci pour ces explications. On avait besoin de comprendre. Étienne Noël, avocat, ancien membre de l'Observatoire des prisons. Je vous souhaite une bonne après-midi.
La famille, les amis, les proches se préparent aux obsèques dans quelques minutes.
C'est aujourd'hui qu'est enterré Adam. Il avait 17 ans. Il est mort samedi soir sur un scooter à Grenoble avec son ami Fatih, âgé de 19 ans. Fatih sera quant à lui inhumé plus tard en Turquie. Les deux ados tentaient d'échapper à la police. Il y avait eu plusieurs nuits de violence dans le quartier du Mistral. Aujourd'hui, c'est donc une journée chargée d'émotions, Gérard Fourgeot.
Porter en terre un adolescent fauché dans la fleur de l'âge conduit forcément tout le monde au recueillement. Cela devrait apporter du calme pour la journée. Les familles et les proches d'Adam vont se retrouver à 13h30 à la mosquée des Chirolles. Ensuite, ils vont accompagner le défunt au carré musulman du cimetière de Poisat dans la banlieue sud de Grenoble. Adam Soli était le seul garçon d'une famille qui compte plusieurs filles qui ont plutôt bien réussi dans la vie. Il a été élevé par sa mère et par son père. Ce dernier a lancé un appel au calme hier que les violences qu'on a connues ces dernières nuits ne se reproduisent plus. En mémoire de son fils, la famille a aussi sollicité un avocat, Maître Giraud, pour demander une constitution de partie civile auprès du juge d'instruction afin de comprendre comment leur fils a perdu la vie dans un accident avec un car de transport en commun qui roulait à faible allure. Encore aujourd'hui, une marche blanche est prévue à partir de 16h. Elle partira du quartier Mistral pour rejoindre le pont de Catane où a eu lieu le drame samedi soir.
Gérard Fourgeot à France Bleu Isère. Carlos Ghosn est sorti de prison en échange d'une caution d'1 milliard de yens.
Le tout en liquide, ça fait presque 8 millions d'euros. Le tribunal de district de Tokyo au Japon a donc accepté la demande de libération sous caution. Après 100 jours en prison, l'ancien patron de Renault, Nathalie Charbonnier, est apparu avec un look bien particulier.
À peine dehors, la photo a déjà fait le tour du monde. On y voit Carlos Ghosn encadré de policiers sortir de prison. Il porte une casquette, des lunettes de soleil et un masque anti-pollution sur le visage. Impossible de dire s'il a maigri après ses 100 jours de détention, mais facile de dire où il se rend. Car Carlos Ghosn doit obéir à un contrôle judiciaire strict. Ses avocats l'ont négocié directement avec le juge. C'est ainsi que l'ancien patron de Renault va habiter dans une résidence équipée d'une vidéosurveillance. Les vidéos seront remises régulièrement au juge. Il s'agit pour la justice de vérifier que Carlos Ghosn ne voit pas de personne impliquée dans le dossier. Il n'a pas non plus le droit d'utiliser Internet et ne peut se servir d'un ordinateur que dans le bureau de son avocat. Et pour être tout à fait certain qu'il reste au Japon, son passeport lui a été confisqué. C'est de cette résidence particulière que l'ancien patron de Renault va maintenant organiser sa défense, car il n'entend rien lâcher. Hier, alors qu'il venait à peine d'apprendre sa libération, il faisait déjà publier un communiqué dans lequel, une nouvelle fois, il clamait son innocence.
Nathanaël Charbonnier pour France Bleu. C'est une nouvelle loi, elle a été promulguée en août dernier.
La loi pour outrage sexiste, et on a les premiers chiffres. Au bout de 6 mois, il y a eu 332 contraventions dressées sur l'ensemble du pays.
Suite de l'agression d'un agent de sécurité à Rouen.
Il protégeait des journalistes de la chaîne d'info LCI dans une manifestation des Gilets jaunes. 6 hommes âgés de 20 à 60 ans ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin. L'agression avait eu lieu le 12 janvier.
13h11 sur France Bleu, la suite du Nord en France avec le PSG qui joue ce soir en Ligue des Champions. Les supporters sont confiants. Et puis dans la série, le service public se renouvelle, je demande la SNCF.
Alors que plusieurs agences ferment en ville, la SNCF veut nous faire acheter des billets de train dans des bureaux de tabac. Le PDG de la SNCF et le président de la Confédération des buralistes en parlent justement aujourd'hui. L'idée fait donc son chemin et ce n'est pas pour déplaire à Emmanuel Magnez, président des buralistes dans la région de Rouen.
Le réseau des buralistes est en train de se métamorphoser. On veut devenir le drugstore de demain et proposer aussi une palette de services publics accessibles à chaque Français qui se trouve en ville ou à la campagne. On a plus de 1000 relais postes en France qui sont installés chez des buralistes. Et nous vendons déjà des timbres fiscaux dématérialisés via nos caisses. Nous avons aussi répondu à l'appel d'offres de la Direction Générale des Finances Publiques pour se positionner pour encaisser en numéraire des impôts ou alors en carte bleue. Et ajouter à cela la vente de billets SNCF, pour nous c'est tout à fait possible. Tout le monde a bien compris que le paquet à 10 euros va changer notre métier. Nous allons baisser en volume de clients journaliers dans nos affaires. Et pour cela, la seule chance que nous avons, c'est de rebondir et puis de se diversifier et de vendre plein de produits pour tous les Français.
Vous souffrez de dépression, et bien un médicament est annoncé comme étant révolutionnaire.
Oui, un peu comme l'a été le Prozac à l'époque, c'était il y a plus de 30 ans. Ce nouveau traitement est un dérivé de la kétamine, une drogue euphorisante. Mais la nouveauté est dans la manière de prendre ce médicament. Vous l'injectez directement dans le nez grâce à un spray. Il vient seulement d'être autorisé par l'agence américaine du médicament. Grégory Phillips, ça devrait être un gros succès.
Environ 20 millions d'Américains connaissent ou ont connu un épisode de dépression sévère. Pour ceux qui résistent au traitement habituel, l'agence du médicament vient donc de donner son feu vert à la mise en vente de cette molécule baptisée esquétamine. Il s'agit d'un spray nasal qui ne pourra être administré que dans des centres spécialisés ou des cliniques une à deux fois par semaine, sous surveillance médicale, et ce en raison des effets secondaires de cette molécule, proches de ceux provoqués par la kétamine, un psychotrope puissant, parfois utilisé comme une drogue récréative. Le laboratoire Janssen, qui a conçu ce médicament, explique qu'il agit rapidement, au bout de quelques jours, beaucoup plus vite que les antidépresseurs traditionnels, qu'il peut aussi être utilisé pour combattre les pensées suicidaires et parfois être prescrit en complément d'un autre antidépresseur. Le fabricant souhaite maintenant que l'esquétamine soit aussi bientôt validé par l'Agence européenne des médicaments.
Grégory Phillips, correspondant de France Bleu aux États-Unis.
Les Parisiens jouent à domicile et ne doivent pas se rater.
Le PSG joue sa place en quart de finale de la Ligue des Champions. Paris est favori face à Manchester United après la victoire 2-0 au match aller. D'ailleurs, les supporters ne semblent pas trop inquiets.
Je pense qu'on est assez serein, oui. Ça devrait être bon.
On est serein, parce qu'il y a Mbappé.
Qu'il nous fasse pas une Barcelone, quoi. Voilà.
C'est ça la grande crainte.
C'est ça, ouais. Ça fait que 2-0, mais bon, là, ils ont bien assuré au match aller. Je pense que là, ils ont appris de leurs erreurs. Ouais, ça va le faire.
Je pense qu'il faut être confiant.
On y croit, mais on va pas s'enflammer. On va regarder les matchs tranquillement, puis on va laisser faire. Voilà.
Pour moi, cette année, je pense que c'est l'année.
Ouais. Enfin, on espère gagner en tout cas. C'est pas sûr à 100%.
Comme dit bon. Mbappé, ça se joue sur le terrain.
Oui,
voilà.
Exactement.
Tu pronostic?
Je sais jamais.
Bah, 2-1 pour Paris, on va dire. Voilà, monsieur.
Ce qui s'appelle vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. PSG Manchester, c'est ce soir à 21h et il y aura Neymar.
Mais en tribune, et oui, le Brésilien est toujours blessé, Frédéric. Paris va peut-être penser ce soir au Real Madrid pour éviter de faire la même chose. Le Real, triple tenant du titre de la Ligue des Champions, a été battu et éliminé à la surprise générale par l'Ajax Amsterdam, 4-1. à Madrid. Autre qualification, celle de Tottenham, 1-0 sur le Borussia Dortmund.
Allez, dans la suite du Nord en France, nous allons dans les Hauts-de-France, à Paris, Aix-en-Provence et dans les Côtes-d'Armor. C'est après la météo et le message de la grippe.